Merci à tous pour votre accueil chaleureux, affectueux. C'est vrai, c'est la première fois que nous sommes parmi vous et pourtant on se sent déjà en famille parce que finalement le lien qui nous unit est ancien et nous le connaissons avec Alain et Marie-Jo depuis un temps que les moins de 20 ans et vous connaissez la suite. Et on a suivi votre... J'allais dire vos pérégrinations, non seulement spirituelles, mais aussi géographiques. Ces temps difficiles que vous avez vécu à la recherche d'un lieu pour vous poser, pour vivre votre ministère et votre vision. Et puis on est tellement heureux de venir le jour où voilà, tout est fait, tout est... vous êtes installés, magnifiquement installés. Et pour nous, c'est vraiment une source de joie. Alors, pour préciser, nous ne sommes plus pasteurs à Auch. Nous habitons toujours cette belle région du Gers, mais nous avons... passer le relais à une équipe de jeunes ministères qui, enfin plus jeunes en tout cas que nous, qui ont pris le relais et qui assument la direction de l'Église maintenant depuis 2-3 ans magnifiquement. Et par contre, nous sommes impliqués dans une église de Toulouse pour un temps de transition et j'y suis un peu plus présent. Mais mon ministère, c'est enfin, mon appel, mon occupation, mon activité, c'est de visiter les différentes églises de notre et œuvres de notre réseau pour accompagner, aider, encourager et communiquer notre vision commune. Je dois vous dire quand même que je me sens en famille, doublement en famille. Je ne peux pas résister au plaisir de le dire ou de le signaler parce qu'il y a un petit bout de chou parmi vous qui est ma petite nièce. Eh oui. Il s'agit d'Héloïse Bonin, dont les grands-parents sont là, et donc qui fait que, par le biais de cette union de famille aussi, parce que c'est ça aussi RNC, le Royaume de Dieu, c'est une histoire de famille globale, mais c'est aussi une histoire de famille biologique qui se croise, qui s'entrecroise et qui se réunissent. Et Victoria étant ma nièce, donc évidemment, Jean-Baptiste, sans prétendre au-delà, est devenu mon neveu aussi, voilà, notre neveu. Et on est heureux d'être avec vous et avec Pierre aussi. C'est une longue histoire depuis le début des années 2000, il me semble. Début des années 2000, on a engagé cette aventure, non pas d'un RNC, mais dans ID2R, qui signifie Institut de développement pour la recherche. Et la réconciliation qui a pour vocation de former, d'accompagner des professionnels dans leur sphère d'engagement sur le plan économique, politique, associatif, etc. Et donc on mène cette œuvre ensemble depuis pas mal d'années. C'est l'occasion d'un compagnonnage dans lequel, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, je trouve beaucoup de bienfaits et de bénédictions. Voilà, juste pour un mot personnel. Sinon, pour aller un peu plus loin, ben nous on est maintenant des grands-parents. Hein. 6 enfants, 11 petits-enfants. Pour l'instant, parce que d'autres s'annoncent dans les années qui viennent. Donc voilà, Daniel étant maintenant à la retraite. Elle me suit, elle m'accompagne partout. C'est un plaisir pour moi incroyable que de pouvoir voyager comme je l'ai toujours fait, mais non plus en étant seul, en étant en sa compagnie, soutenue. Et donc ça, c'est une bénédiction privée, mais dont je ne vous fais pas, parce que ça fait partie de la vie de famille. Mon désir, quand je visite les églises comme la vôtre, c'est de... partager la parole de Dieu, qui reste le centre de notre attention, de notre réflexion, de notre méditation. Mais aussi, c'est de voir comment notre façon de vivre en tant que famille spirituelle, cette fois, notre réseau, nouvelle connexion, partager comment cette famille spirituelle cherche à s'enraciner, à s'ancrer dans les principes de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas nés parce qu'un jour, quelqu'un a eu une bonne idée de créer le réseau de nouvelles connexions, un de plus, etc. Nous sommes nés parce que Dieu a déposé en nous une vision claire, nette, enfin en tout cas pour ce qu'on peut en comprendre, une vision qui nous dépasse, mais qui en tout cas a animé nos cœurs et nous a mis en mouvement. Cette vision, elle gagne toutes sortes de milieux et de personnes, ce qui fait que notre réseau grandit. On est tellement heureux d'accueillir Sabine et Hachim dans notre réseau il y a quelques années aussi. Notre réseau ne cesse de se développer, non pas parce que nous cherchons à faire du nombre, non pas parce que nous cherchons à être connus, mais parce que la vision que l'on porte aussi gagne du terrain. Mais ma préoccupation, c'est de voir comment cette vision, précisément, s'incarne, plutôt se... s'enracine dans la parole de Dieu, parce que c'est de là que nous puisons la force, le dynamisme et aussi notre façon de vivre. Et pour ça, j'ai un texte sur lequel je parle régulièrement, et peut-être que ceux qui me suivent peuvent penser que je n'ai pas d'autres messages. Si, j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres. Mais quand il s'agit de parler d'un aspect particulier de la vie de notre vision, eh bien, il y a un texte que j'affectionne particulièrement et qui pour moi ne cesse de me parler, de s'éclairer, d'enrichir ma compréhension. C'est juste un extrait. Vous savez, chez Paul, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, quand on lit l'apôtre Paul, des fois il a des phrases qui n'en finissent plus, hein, vous avez remarqué, et puis on s'y perd. À mon avis, lui aussi un petit peu, mais ce n'est pas parce qu'il se perd, c'est parce que la pensée de Dieu est tellement riche, sa révélation est tellement profonde et dense que du coup, c'est difficile de la mettre en mots. Et donc, dans une phrase très longue, comme beaucoup dans l'écriture de Paul, au chapitre 1er, au verset 5, il y a un extrait que je voudrais souligner, que je voudrais vraiment mettre en exergue comme étant la pensée de Dieu, l'appel de Paul, mais aussi la vocation dans laquelle nous sommes appelés les uns et les autres. Je lis avec vous Romains chapitre 1 et le verset 5. Peut-être que je vais lire d'ailleurs le début de ce verset parce que ce serait trop dommage de se couper de ce que Paul veut nous dire. Paul, là je lis maintenant verset 1er, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel. Intéressant ça. On ne se prétend pas apôtre, on est appelé par Dieu et reconnu par les autres. Mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile, cette bonne nouvelle, l'évangile, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Elle concerne son fils, issu de la descendance de David, selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est là l'extrait que je méditerai avec vous dans quelques minutes. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Nations dont vous tous aussi faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, à Lyon, à Décines, en France, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, grâce et paix à vous, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je redis l'extrait de ce passage que je voudrais poser là parmi nous comme pendant un moment de méditation, pas simplement de méditation, mais d'appropriation. Quand Paul dit « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter ou d'amener pour son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations », peut-être que vous avez lu ce texte des dizaines de fois, et vous vous êtes dit, ah, ce Paul, mais alors, quel ministère, quel appel. C'est sûr, on est tous impressionnés par l'apostolat unique de Paul. Pour autant, je ne pense pas que cette déclaration soit réservée à lui seul ou même à son équipe. Et je voudrais ce matin vous proposer de nous approprier en tant qu'Église cette affirmation, cette définition de notre appel et de notre mission, pour que nous puissions dire avec encore plus de confiance, d'assurance, d'humilité, mais quand même de conviction, peut-être le ferons-nous en terminant ces moments, ensemble ici, à Décines, dans cette région lyonnaise, mais avec toutes les églises qui nous accompagnent dans notre réseau, et bien au-delà de notre réseau, que nous puissions dire humblement, mais avec assurance, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin de susciter pour son nom, l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Pourquoi ce texte me paraît important? Parce que j'y trouve là trois éléments fondamentaux du projet de Dieu. D'abord, la grâce. Nous avons reçu la grâce. Rien que ça, on pourrait y passer des jours et des jours, parce que ça en dit long. Et Paul continue, il dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Tiens, là, on passe à autre chose. Quand on parle de la grâce, on parle du message. Message du salut, message de la justification par la foi, le message central de l'évangile sur lequel on reviendra. Et ça, ce thème-là nous rassemble. Il nous émeut, il nous touche. Ah, la grâce, merci. On ne cessera de célébrer Dieu pour la grâce qu'il nous a faite en Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Et quand on continue, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Alors certains me disent, mais tu es sûr que dans le texte original, il ne s'agirait pas de dire « nous avons reçu la grâce de l'apostolat ». Eh bien, dans certains textes, oui. Les ministères que nous avons reçus les uns et les autres sont tous l'expression de sa grâce. Donc nous avons tous reçu la grâce de le servir d'une façon ou d'une autre, et parfois c'est l'apostolat. Mais dans le texte original cette fois, ça n'est pas relié comme ça. Il s'agit bien de deux choses distinctes. Nous avons reçu la grâce et nous avons reçu l'apostolat. Là, on n'est plus sur le terrain du message de la grâce, de la culture dans laquelle nous devons évoluer personnellement, collectivement, du message que nous devons proclamer et incarner dans le monde qui nous entoure. Nous sommes dans le mandat. L'apostolat, c'est un mandat qui concerne certaines personnes en particulier, mais qui concerne aussi l'Église. Il y a une largeur de la compréhension de l'apostolat dont il faut que nous nous saisissions, parce que ça change complètement notre façon de voir l'Église et notre mission. On va y revenir. On passe là donc au mandat. Et ne pensez pas qu'il s'agit là du coup d'un quelque chose d'organisationnel, de structurel. Certains pensent que quand on évoque le mot apostolat, on pense à une hiérarchie, on pense encore pire à une pyramide. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit du tout, et on y viendra dans quelques instants. Mais ce que je remarque dans ce texte, c'est que tant la grâce que l'apostolat ne sont pas une fin en soi. Nous avons reçu la grâce, c'est bien. Et l'apostolat, c'est super, en vue d'eux. Et parfois, notre problème en tant que croyants, notamment croyants évangéliques, c'est que nous faisons de ce que nous recevons de Dieu une fin en soi. Si la grâce, elle est pour nous, que pour nous, si c'est une fin en soi, elle ne va pas trouver son champ d'expression. Si l'apostolat, le ministère, la mission, le mandat, est une fin en soi, eh bien, vous savez, il y a quelques années, on découvrait la dimension apostolique et prophétique. Et le problème, c'est que ça a pu devenir comme une fin en soi. Chacun cherchait son ministère. Quel est mon appel? Quel est mon ministère? C'est important. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Nous ne cherchons pas nos ministères et nos appels comme si c'était le summum. Non, c'est un moyen. Les dons, les talents, les appels que Dieu nous adresse, c'est en vue d'eux. Et là, on entre ensuite dans le troisième pilier de la foi chrétienne. La grâce, le message, la culture, l'apostolat, le mandat de l'Église, et on y reviendra, est tout d'un coup le champ dans lequel ce mandat doit s'exercer. Ce mandat, ce sont les nations, en vue de susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Et là, on est sur une notion qui, dans notre famille, qu'on résume dans notre famille par la vision du royaume de Dieu. Le fait que l'Évangile ne concerne pas que des individus. Nous ne cherchons pas le salut des âmes seulement, nous cherchons d'abord le salut et la restauration des personnes, esprit, âme et corps. Mais en plus, nous pensons que l'Évangile doit changer les personnes, les cœurs et aussi l'environnement dans lequel nous sommes. Et là, c'est décrit par la notion de nation. Cette vision du royaume de Dieu, elle est plantée au cœur de notre existence et de notre appel, vocation en tant que réseau Nouvelle Connexion. Nous sommes loin d'en avoir fait le tour, d'avoir tout compris, et encore moins d'être arrivés dans l'accomplissement de cette vision. Pour autant, elle reste un horizon. Et une église, un individu, un croyant qui n'a pas plus d'horizon, il n'est plus trop dans le dynamisme, il est dans le statu quo. Et notre vision, notre rêve, notre prière, quand nous prions que ton règne vienne, quand nous prions Seigneur viens, que ta gloire soit manifestée. Je ne sais pas comment vous imaginez, comment vous visualisez ce qu'on prie, ce qu'on nomme, réveille, toutes sortes de choses comme cela qui soulèvent l'enthousiasme et un peu la frénésie parfois parmi le peuple de Dieu. La façon dont je crois Dieu voit les choses, c'est son salut qui se répand non seulement dans les personnes, mais dans les structures, dans les nations, pour que ces nations participe à ce fleuve de vie, entre dans ce fleuve de vie et reçoivent la vie. Le fleuve de Dieu qu'on a célébré ce matin, dans lequel on a été invité à entrer, dans lequel on aime se plonger, encore que on a encore du chemin à faire, je ne sais pas à quel stade vous êtes, des chevilles, du genou, de la taille, ce n'est pas le but de mesurer là où on en est, mais en fait on est bien conscient que le fleuve de Dieu, voilà, on a besoin, on a envie d'en connaître la profondeur et le dynamisme. Quand on entre dans ce fleuve-là, et quand on le voit couler dans la prophétie d'Ézéchiel, ce fleuve n'a pas pour finalité de bénir l'individu, de bénir le peuple de Dieu de l'époque. Ce fleuve se répand dans la mer. Et la mer, dans l'Écriture, ce sont les nations, avec ce qu'elles ont de tumultueux, de corrompus, de d'assujettissement aux ténèbres et au royaume des ténèbres, parce que c'est dans les nations que l'ennemi cherche à exercer son règne tyrannique et destructeur. Donc le fleuve de Dieu, il est pour nous ce matin, mais il est pour que là où nous sommes, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, dans nos engagements professionnels, associatifs, ou comme ça, individuels, même si on est retraité, des fois on me dit, moi je suis retraité, à quoi je vais servir dans le royaume de Dieu? Mais imagine pas ce que tu peux être et faire dans le royaume de Dieu par le rayonnement de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, là où tu es, dans tes cercles d'amis. C'est ça le royaume de Dieu. Des fois, après avoir enseigné sur le royaume de Dieu pendant un week-end, à la fin, j'ai toujours quelqu'un qui vient de me dire, bon alors, concrètement, c'est quoi le royaume de Dieu? Ça fait toujours plaisir aux enseignants, ça, quand à la fin de leur démonstration, on finit, on leur dit, mais concrètement, autrement dit, qu'est-ce que tu as bien voulu dire? C'est si concret, le royaume de Dieu. C'est vivre le salut dans toute sa dimension de restauration, de plénitude, et en rayonner là où nous sommes, pour attirer, pour susciter l'obéissance de la foi, pour susciter l'adhésion à la foi. On n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour dominer, on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour persuader, on n'est pas les avocats de Dieu, on est ceux qui témoignent de qui il est et de ce qu'il peut faire dans une vie. Et à ce moment-là, alors, eh bien, on touche les personnes. Et on voit les personnes et le cercle dans lequel on est être accueillir la présence de Dieu. Même s'il n'y a pas toujours des conversions comme on les aime et comme on les imagine, quand la sphère dans laquelle on est imprégnée de l'amour, du pardon, de la justice, de la réconciliation, de la bienveillance, ça, c'est déjà une façon d'exprimer le royaume de Dieu. Mais il y en a bien d'autres. Mais simplement, je vais m'arrêter sur la dimension la plus simple et la plus commune à nous tous, pour susciter la finalité de tout ce que nous vivons, cette grâce qui nous habite et qui nous transforme et sur laquelle on va revenir, ce mandat qui nous envoie, nous place dans un champ de mission qui n'est pas l'Église, mais qui est le monde dans lequel nous sommes. Le champ, c'est le monde. Vous voulez le dire avec moi, ça? Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. C'est là que les fils et filles du royaume sont semés. Le bon grain est semé. Et aussi livré. Des fois, on aimerait bien arracher livré parce qu'on se dit, bon voilà, mais le Seigneur dit, non, ne touchez pas. Laissez ça. Nous, on aurait envie de faire la justice un peu, de faire du nettoyage, de faire. Un jour, me permettre une petite anecdote un peu, je vais être assez discret, mais quand même. Je me trouvais dans un certain pays qui venait d'élire un certain président. Je n'irai pas plus loin. Et dans ce pays, moi qui étais un peu, on va dire, comment dire, inquiet, voilà, face aux déclarations, aux prises de position de ce président, je me suis exprimé au milieu d'un certain nombre de responsables spirituels, en disant, vous savez, ce que cet homme dit, ce que cet homme fait en Europe, c'est assez mal perçu, vous croyez que... Et on m'a dit, non, cet homme, il va nettoyer notre pays, après il nettoiera le monde. Bon, on a vu le résultat. C'est pas ça l'évangile, c'est pas ça le royaume. On n'est pas là pour nettoyer le monde. On est là simplement pour témoigner, pour vivre. On n'arrache pas livré. Ça, c'est très important pour ceux qui sont engagés en politique. On n'est pas là pour faire justice, on n'est pas là pour nettoyer, on n'est pas là pour... j'ai entendu parfois des hommes politiques, même en France, dire tel parti, telle idéologie, je veux l'éradiquer de notre population. Mais c'est de la folie. D'abord, c'est impossible. Et en plus, ce n'est pas l'appel. Notre appel à nous, c'est de semer la bonne semence, que les filles du royaume grandissent là où ils sont, qu'ils rayonnent de la présence de Dieu et qu'ils influencent le monde en attendant le jour où le Seigneur, lui, viendra faire la moisson et viendra recueillir les fruits de son œuvre. Bon, alors, ces trois piliers sont là et je voulais m'y arrêter pendant quelques instants. Je les ai résumés. Pour moi, pendant longtemps, j'ai compris la grâce de Dieu comme étant le fondement de ma conversion. J'étais fils de pasteur, je connaissais l'évangile, je connaissais l'histoire biblique, et pour autant, je ne connaissais pas la grâce de Dieu. Parce qu'il faut une révélation pour la grâce de Dieu. Quand elle s'est révélée, cette grâce de Dieu, ça a bouleversé ma vie. Des fois, on dit, ouais, les enfants de chrétiens, ils n'ont pas grand-chose à dire comme témoignage parce qu'ils n'ont pas fait les 400 coups. Ce n'est pas la peine d'avoir fait les 400 coups pour recevoir la grâce de Dieu, naître de nouveau et vraiment vivre la dimension de la révélation de l'amour de Dieu. Je peux vous dire que même si moi, dans ma vie, tous les jours, je paraissais bien sage, bien tranquille, à l'intérieur, c'était le tumulte, c'était les ténèbres, c'était le désespoir et j'étais bien jeune. Que la grâce de Dieu m'a été révélée On m'en avait certainement parlé jusque-là, évidemment, mais je ne l'avais pas reçu. Et ça a été pour moi le fondement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, la grâce, c'est ça, c'est cet échange de vie. On n'est pas en train de chercher à suivre des lois, une morale, des conventions sociales. On n'est pas là pour endosser une philosophie, des commandements, tu feras, tu dois, etc. Non, on est là pour recevoir une vie nouvelle qui nous donne la force d'aimer Dieu et de le servir selon son plan et selon ses exigences. Pas par notre force, mais par sa grâce. J'ai découvert ça, ça a été un fondement pour moi pendant toute ma vie. Tout d'un coup, après, on a découvert les ministères. Alors là, ça a été aussi un moment nouveau d'élargissement. Ah oui, l'Église a besoin de ces cinq onctions, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Formidable, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut les accueillir? Est-ce qu'on peut les reconnaître encore aujourd'hui? Ça a été pour moi le début d'un renouveau aussi dans la compréhension du service pour Dieu. C'est un pilier qui était là. La grâce était là, l'apostolat était là. Et puis, il y avait le royaume de Dieu qui avait commencé assez jeune à se révéler, à se présenter à mon cœur, voyant, pensant que l'évangile, ce n'était pas que pour la vie privée, c'était aussi pour changer le monde dans lequel on était. Et ce troisième pilier s'est posé là, mais je ne voyais pas le lien entre eux. Et récemment, ils se sont rassemblés, ces piliers, pour former quelque chose de stable. Et je voudrais voir la relation que ces trois dimensions entretiennent l'une avec l'autre, de façon à ce que Dieu continue de former et notre mentalité et notre envoi. La grâce, quelques mots simplement. Vous savez, la grâce, c'est le message de la justification par la foi. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dit comme ça, on le connaît, on le proclame, on le vit. Mais c'est d'une puissance incroyable. C'est quand ce message a été annoncé parmi les Juifs, et ensuite parmi les nations, dans les premiers siècles, que toutes les nations ont été transformées, bouleversées. Ces gens qui cherchaient à connaître Dieu dans le milieu juif par leur propre force, en observant les commandements, la loi qui leur était donnée, et qui se trouvaient finalement écrasés par la condamnation, ces gens ont découvert que l'accès à Dieu était libre. Parce que quelqu'un avait payé le prix, ouvrait le chemin, ça a été dit ce matin, et on pouvait vivre la présence de Dieu au quotidien avec sa force. La grâce de Dieu a bouleversé les nations à ce moment-là. C'est pareil au XVIe siècle, quand les réformateurs ont découvert que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi, que c'est un don de Dieu. Luther, le premier, sa vie a changé. Il cherchait à plaire à Dieu par ses forces et parce qu'il avait appris. Tout d'un coup, il comprend que c'est par la foi, c'est gratuit. Et ce message-là, enflammer des vies, des nations, des autorités. Il y a des rois, des reines, des princesses qui se sont convertis à l'évangile et qui, du coup, ont entraîné leur nation à cette nouvelle façon de vivre. Ça a créé une culture, on appelle ça la culture protestante. Alors aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais n'empêche qu'au départ, elle a marqué une nation. Je me dis pourquoi aujourd'hui, la grâce que nous connaissons, parce que quand je vous ai dit ce matin, en commençant, nous avons reçu la grâce, vous avez peut-être dit, ça on le sait. La grâce, ça je connais. Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau ce matin? On entend parler tous les dimanches. Et c'est ça le problème. C'est que des réalités aussi puissantes, aussi révolutionnaires que la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu, manifestant Jésus-Christ, deviennent pour nous des expressions, des formules, non pas vides, mais enfin, bon, on se dit maintenant, what next? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de plus? Et parfois, on trouve sur les réseaux aujourd'hui toutes sortes de révélations qui sembleraient nous entraîner dans quelque chose de plus, parce qu'on a besoin de quelque chose qui nous excite, qui nous enthousiasme, qui sorte de l'ordinaire, qui nous fasse sortir de nos ornières. La grâce, elle n'est pas usée. La révélation de la grâce, elle ne s'est pas fanée. Elle n'a pas pris une ride. Elle est toujours aussi révolutionnaire. Elle est toujours aussi importante pour nos vies. Et quand Paul dit « Nous avons reçu la grâce ce matin », j'aimerais simplement poser une question. Est-ce que nous avons vraiment reçu la grâce? Ou est-ce que nous sommes en train de recevoir la grâce au quotidien? Est-ce que cette révélation de la grâce, du caractère de Dieu, nous transforme au quotidien? La grâce, c'est le fondement déjà de notre relation avec Dieu, je viens de le dire. Étant justifié par la foi, nous avons la grâce, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, oui. On pense parfois que la paix avec Dieu, c'est le fait qu'on ira au ciel quand on mourra, que nos péchés sont pardonnés. Et il y a plein pourtant d'inquiétudes, de distances, de réserves, de peurs qui s'installent entre Dieu et nous, dont on n'est même pas conscient. On reçoit la grâce à la conversion, et on commence à rembourser tout au long de notre vie, par nos œuvres à nous. Fût-elle la prière parfois, une façon de prier, qui est une façon de prier d'une manière méritoire ou méritante, par l'engagement, par l'obéissance, par toutes sortes de choses qui nous semblent être de nature à apaiser la colère de Dieu et puis nous mettre bien avec lui. Moi j'ai une bonne nouvelle qui n'encourage pas au laxisme ni à l'irresponsabilité, c'est que tu n'as pas d'effort à faire pour être bien avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. Ce n'est pas les erreurs, les faux pas, les maladresses d'hier qui font que Dieu va dire « Oh là, celui-là, alors quand il aura changé, je commencerai à m'intéresser à lui. » La grâce, ce n'est pas ça. La grâce, c'est que nos péchés sont couverts, étant justifiés par la foi. La joie, on a parlé de la joie ce matin. Dans quoi la joie prend sa source ? Dans l'assurance que nos péchés passés, présents et futurs sont couverts. Et que je peux avancer sans culpabilité, sans accusation. Nous ne vivons pas toujours la grâce parce que nous nous laissons rattraper par l'œuvre préférée de l'ennemi. Des fois, on voit le combat spirituel de manière très... Bon, il n'a pas besoin de sortir avec les grandes armes. Il vient par l'accusation, il vient par l'indignité. Tu me dis, mon pauvre, ma pauvre. Tu n'as jamais rien réussi, tu vas pas... Ce n'est pas maintenant que tu vas réussir. Tu n'es pas à la hauteur. Et puis rappelle les erreurs qu'on a faites, les domaines dans lesquels on n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de nous-mêmes. Et puis du coup, on est là embarrassé. Et l'accès à la présence de Dieu, il est compliqué. Hein, il y a du chemin à faire pour entrer dans la présence de Dieu. Mais ce matin, on nous a rappelé qu'il est en nous, qu'il est là. Et que même si nous n'avons pas à ignorer nos fautes et nos maladresses, nous vivons dans la lumière. Et parce que nous marchons dans la lumière, dit l'apôtre Jean, le sang de Jésus, c'est-à-dire que parce que nous sommes vrais, nous reconnaissons nos fautes, nos misères, nos imperfections, et nous les confessons au Seigneur. Et du coup, nous marchons dans la lumière, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Et dans le grec, le sang, c'est le sang de Jésus, son Fils, nous purifie constamment de tout péché. C'est ça qui libère ma marche. C'est ça qui me fait marcher dans la victoire, dans l'autorité. C'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je vaux, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il vaut, lui. C'est le prix de son sang précieux. Que Dieu nous révèle cette grâce-là. Qui nous libère du légalisme, de tous les jougs que l'on se met, qu'on met sur les autres, pour avancer, pour avancer dans une plus grande dimension. Aujourd'hui, c'est un peu la mode, hein, plus grande dimension spirituelle qui fait que les uns seraient des initiés, puis les autres, ce sera un peu le bas peuple. Non. La grâce de Dieu fait qu'on a tous accès, le même accès, auprès de Dieu. La même valeur, la même signification. Et ça doit restaurer notre image de nous-mêmes. Ça doit nous faire avancer dans une liberté, dans une joie, dans une autorité aussi. Et on a bien besoin que ce message de la grâce nous touche là où ça fait mal, là où le péché fait mal, là où les mensonges du diable, là où l'intimidation du diable fait mal, pour nous faire avancer dans cette réalité. Nous avons reçu la grâce. La grâce, c'est le fondement de la relation avec Dieu. C'est le fondement de la relation avec soi-même. Parce que Dieu me fait grâce, je me fais grâce. Je ne vais pas m'y arrêter longtemps, mais on a besoin de se faire grâce dans plein de domaines. Il y a des moments où j'entraîne ma femme dans les abîmes de mon désespoir. Heureusement qu'elle est là pour m'en retirer, parce que je fais le compte de mes lacunes, de mes faiblesses au sens de imperfection. J'ai raté ce truc, je n'ai pas été à la hauteur là. Et puis, tu vois, j'y arriverai jamais. Mais ça m'arrive aussi, vous voyez. Donc, je sais de quoi je parle. Et tout d'un coup, je plonge, parce que je dois apprendre à me faire grâce. Oui, je n'ai pas réussi toujours ce que Dieu attendait de moi. Oui, je ne suis pas encore arrivé là où je pense que Dieu m'appelle à aller. Mais ce n'est pas ça qui détermine le regard de Dieu. Je dois me faire grâce moi aussi. Et puis on doit se faire grâce les uns aux autres. Alors ça, c'est encore autre chose. Romains 15, verset 7. Comme Dieu vous a accueilli en Christ, faites-vous grâce mutuellement. Ça, c'est l'histoire de l'Église. On se fait grâce mutuellement. On a tous parfois des choses, des comportements, des attitudes, des silences, des paroles, et je ne sais quoi, qui font que on est pour les uns et les autres un moment un peu comme quelque chose qui dérange, qui fait mal, qui blesse.
même involontairement. Et quand on découvre l'amour que Christ a pour nous, on peut faire grâce. Ça peut changer non seulement nos relations fraternelles, mais nos relations familiales et nos relations au travail. Vous savez, ce message-là, il est basique, hein. Mais n'empêche que si nous comprenons la portée qu'il a pour nos vies, mais pour la société qui nous entoure, alors ça peut tout changer. Parce que le message de la grâce, il n'est pas que pour nous dans ma relation individuelle avec Dieu, personnelle avec Dieu. Il est pour que là où je suis, je l'incarne, je le manifeste. Dans ma responsabilité professionnelle, dans mon engagement associatif, les principes de la grâce que je découvre dans l'Église, dans la relation, je puisse les vivre, je puisse les communiquer, que je puisse les incarner. Et vous savez quoi ? Ça change le monde. Ça change le monde. Et depuis quelques mois, je suis dans une aventure inattendue. Il semble avoir été préparé par Dieu, je l'espère, il semble en tout cas. Je me retrouve dans la présidence d'une association au niveau de la ville, sur le plan social, dont je tairai le nom, parce qu'elle a un retentissement national, mais en tout cas c'est une association qui a vocation, et de par la loi, à défendre et à représenter les familles. J'ai été amené à prendre la présidence par une succession de circonstances, et je me suis retrouvé dans une structure dans laquelle régnait la discorde, le burn-out, l'épuisement, le découragement, la zizanie, le dénigrement, tout ce qui faisait que finalement cet outil magnifique au service des familles pouvait perdre de son efficacité et de son impact. Et j'ai fait dans cette structure ce que je fais dans toutes les équipes où je suis, sur le plan local, sur le plan des différents réseaux, national, international. J'incarne les principes de la grâce de Dieu, dans l'accueil, dans l'écoute, dans le souci de voir chacun vivre au maximum de ses dons, de son appel, être au bon endroit. Et en travaillant comme cela, dans un climat de vérité, de sincérité, de communication, climat de grâce, une culture de grâce. Vous savez ce que je suis en train de voir ? Et ça, c'est vraiment le miracle de Dieu, parce que je ne l'espérais pas si tôt. Ce que je vois, c'est les visages s'éclairer. C'est les gens dire « Ah !» Un climat de sécurité, un climat de vérité. C'est les gens qui viennent et qui disent « Ben oui, je voulais démissionner parce que j'en pouvais plus, mais là, ça vaut le coup de rester et de continuer. » Des gens qui étaient mal à leur place, tout d'un coup être positionnés dans leur appel et tout d'un coup reprendre des couleurs. Alors que jusque-là, tout le monde leur tapait dessus parce que justement, ils faisaient mal leur boulot. Ben oui, on n'est pas tous doués pour tout et il faut être là où Dieu nous veut, là où on est équipé. Et replacer les gens dans leur bon positionnement, les respecter, les valoriser. Ben, la grâce de Dieu, hein, ce qu'on fait dans l'Église. Eh bien, je vois la lumière de Dieu rentrer dans un organisme qui était marqué par les ténèbres, le froid et l'insécurité. Je vois la sécurité en train de gagner. Les gens parlent de sécurité, ils parlent de sérénité, ils parlent d'espérance, ils parlent d'avenir. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, je ne crie pas victoire trop tôt, parce qu'on est au tout début. Mais en quelques semaines, j'ai vu la grâce de Dieu intervenir dans l'expression de la présidence d'une association. Pour dire que si nous vivons ces principes de la grâce de Dieu, et ça, je ne suis pas le seul à vivre ça, hein, c'est vraiment un petit exemple tout récent, et il y en a d'autres, pour moi et comme pour vous. Si on vit le message de la grâce de Dieu dans sa dynamique, alors, du coup, eh bien, il va y avoir des transformations, pas que dans les cœurs, mais dans les structures dans lesquelles nous nous trouvons et qui vont amener la présence de Dieu. Et vous savez quoi ? Quand je louais Dieu ce matin, je louais Dieu avec tout ce personnel, ces 50 salariés dont je voyais le visage. Et je les associais à notre louange. Et j'appelais sur la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Et je voyais chacun s'ouvrir à la grâce de Dieu. Certains plus que d'autres, parce que je suis plus proche de certains que d'autres, parce que par l'activité, je les voyais prêts à recevoir. Quelqu'un à qui j'ai pu dire, vous savez, quelqu'un qui me dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais j'ai jamais vu ça. Il y a un changement incroyable. Puis vous savez, c'est pas compliqué, hein ? C'est la prière. Ah bon ? Ah bon ? Oui, oui. Et puis je vais prier pour vous aussi. Ah bon ? Ah, c'est émouvant. Et les cœurs s'ouvrent. Et je m'attends au salut de Dieu dans cette structure parce que la grâce de Dieu, elle s'incarne dans la société. Il faut qu'on ait une expérience renouvelée de la grâce de Dieu personnellement pour qu'on puisse la diffuser, la répandre partout où nous nous trouvons. Une fois qu'on a posé ce fondement, nous avons reçu la grâce, on voit combien elle colore toute notre vie. Deuxième chose, c'est que nous avons reçu l'apostolat, et ça c'est le mandat. Il y a un mandat qui est donné aux apôtres, dès le début de leur ministère, qui est non pas d'être les sommets d'une pyramide ecclésiale, mais d'être les porteurs d'un message. Ce qui fait l'autorité des apôtres, c'est leur mission et leur mandat, qui est de proclamer la grâce de Dieu. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour l'apôtre. Et cette dimension-là, elle est importante. Vous me direz, mais alors, quel est le rapport entre la grâce et l'apostolat ? Bien, parce que justement, quand on parle d'apostolat, des fois, on pense à pyramide, je l'ai dit tout à l'heure, on pense à une structure un peu froide, un peu impersonnelle, à laquelle il faut se soumettre, pas du tout. Comment les apôtres du Nouveau Testament ont proclamé et incarné le message de la grâce ? Entre autres, en incarnant dans l'Église et dans la société l'amour de Dieu, l'amour paternel et maternel de Dieu. Si vous avez pensé que RNC serait une structure dans laquelle oh, il faudrait rentrer dans des cadres, être contraint, être soumis à des autorités apostoliques, non. RNC est une famille. Et la vocation des apôtres, c'est de rassembler la famille. Et c'est de la faire vivre ensemble. Paul dit aux Thessaloniciens, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 12. Il dit, comme un père, je vous ai adjuré de marcher d'une manière digne du Seigneur. Comme un père. Tout le temps, Paul se revendiquera d'une position de père. Vous avez peut-être plusieurs maîtres, mais un seul est votre père. Ce n'est pas, pas du paternalisme. C'est le fait que son ministère, il l'exprimait avec les valeurs d'un père. Cherchant le bien, sans contrôle, sans abus, parce qu'il peut y avoir aussi de l'abus, sans contrôle, sans abus, mais en cherchant vraiment à accompagner chacun dans sa destinée. Et puis il va continuer, c'est là que ça me touche encore plus. Dans ce même chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, il dit « Comme une mère, j'aurais voulu donner ma vie pour vous. » J'ai pris ces deux versets, mais c'est une réalité qu'on voit tout au long du Nouveau Testament. Les apôtres sont là pour donner leur vie pour l'Église et pour incarner l'amour paternel et maternel de Dieu pour les croyants. C'est d'abord ça. Ce n'est pas une autorité dominatrice, contrôlante, c'est une autorité de service et d'amour. D'ailleurs, dans l'Écriture, l'autorité, c'est ça. L'autorité, ce n'est pas la domination, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas l'abus. L'autorité, c'est la capacité de faire grandir les autres. Quand l'Écriture parle aux parents et aux pères. Il leur dit, père, élevez vos enfants. Élever, c'est faire grandir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas donner des règles et des bases et des commandements, tu dois pas. Non, c'est faire grandir. L'autorité, bibliquement, c'est la capacité de servir les autres pour qu'ils grandissent dans leur appel. Jésus nous a avertis, il dit, vous savez que les grandes, ces nations, les tyrans, les tyrannisent les nations. Et abusent de leur pouvoir. Cette parole, elle est d'une pertinence et d'une actualité terrible. Parce qu'on n'en voit toujours plus les effets, n'est-ce pas ? La tyrannie, la perversité, la domination, le contrôle, dans tous les cercles, qu'ils soient de l'Église, catholique ou évangélique ou protestante, qu'ils soient dans la société, qu'ils soient dans les empires, dans les États totalitaires, et je ne vous fais pas de dessin, cette tentation d'une autorité qui détruit, qui tyrannisent, qui abusent, y compris dans les familles, à travers tout ce qu'on peut connaître de délits, de souffrances et de destruction, et des enfants ou des femmes qui subissent les violences conjugales, et ainsi de suite. Cette capacité de destruction de la fausse autorité, elle est partout. Donc ça nous fait peur, l'autorité. On dit, l'apôtre, c'est ça. Non, Jésus dit, qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Que celui qui veut être le plus grand soit votre serviteur. Le mot serviteur ici, ce n'est pas le fait de nier sa place, son rôle, sa valeur, sa signification, c'est le fait d'être au service d'eux. Et s'il y a une autorité apostolique, elle est dans le mandat que l'on reçoit d'annoncer l'évangile face aux ténèbres, et elle est dans le mandat qu'on reçoit de servir l'Église, pour que l'Église entre dans sa pleine destinée. C'est pourquoi dans le monde apostolique, dans la pratique apostolique parmi nous, eh bien, des équipes se mettent en place. Aucun apôtre n'exerce son mandat tout seul, mais il s'entoure, il met en œuvre des équipes de ministères. Parce qu'on croit que Dieu a donné la diversité des ministères, on croit que c'est un don de Dieu. Nous devons, en tant qu'Église, je fais un appel, nous devons en tant qu'Église accueillir, discerner et accueillir cette diversité des ministères qui est indispensable à notre croissance. Parce qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et enseignants. Ces cinq onctions, ces cinq dimensions sont essentielles pour le perfectionnement des saints. pour former l'Église, pour que l'Église entre dans son ministère. Non pas seulement un ministère du dimanche matin, mais un ministère au quotidien pour vivre l'Évangile dans la société. C'est ça notre compréhension de l'apostolat, et je tenais à le signaler. Dans la dimension spirituelle, là, le mandat reçu par les apôtres, c'est un mandat de combattre les ténèbres. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de la manifestation de ces cinq ministères pour nous donner l'autorité face au combat spirituel. La faiblesse de l'Église, elle n'est pas par un manque de prière, de sanctification, de je ne sais quoi. Tout ça, c'est peut-être des lacunes. Mais une des faiblesses de l'Église, une des carences de l'Église, c'est de retenir l'expression de ces cinq ministères qui, ensemble, reçoivent une dimension apostolique afin de combattre les ténèbres. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il parle des apôtres et de sa confession de foi, de leur confession de foi et de tous ceux qui entraient dans l'Église par la confession de foi. Et il ajoute, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Matthieu 16, verset 18. Dans le mandat apostolique, il y a une autorité pour renverser les ténèbres. Et on a besoin de ça. On a besoin que dans les villes, les églises, les ministères s'unissent dans la foi, dans une prière qu'on appelle une prière apostolique, dans les régions, dans les nations, pour renverser les ténèbres. Non pas pour amener une justice et le salut par soi-même, non, mais pour proclamer l'Évangile, pour que le salut vienne, et même si le mal se répand, que le royaume de Dieu continue d'avancer et de progresser. Il faut qu'on relève la tête dans ce domaine-là. Pourquoi nous avons reçu l'apostolat ? Pour affronter les ténèbres. Pas de manière effrontée, pas de manière comme cela insensée, mais par ce que tu nous as donné. Je prends un moment de l'époque de la première Église. Quand elle est persécutée dans Acte 4, les apôtres reçoivent l'ordre de ne plus parler de Jésus. Ils sont interdits d'exprimer, de vivre leur ministère. Imaginez qu'on nous interdise de témoigner, d'annoncer l'Évangile. C'est la même chose. On leur interdit cela. Ils retournent vers l'Église et disent « voilà ce qui se passe ». Et dans Acte 4, dans la fin du chapitre, il y a un modèle d'exercice de l'autorité spirituelle en Église. Ils se mettent à prier cette prière. « Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, on a besoin de prier dans une dimension d'autorité. On ne prie pas à la hauteur de ses problèmes, de ses difficultés, des ténèbres qui nous envahissent ou qui nous assaillent. On prie en élevant nos regards vers celui qui est le maître du ciel et de la terre. L'autorité, elle commence là. Et les ministères et les apôtres sont là pour élever nos yeux vers ceux qui ont celui qui a toute autorité, celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous, nos regards s'arrêtent, se trébuchent sur tout ce qui nous fait, tout ce qui nous cherche à nous arrêter. Mais le royaume de Dieu nous amène à considérer le roi des rois, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, vois leurs menaces. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance pour qu'il se fasse des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. La prière d'autorité, c'est celle qui ne fait pas le compte de des difficultés, des obstacles, des ennuis que le monde ou que le diable nous fait, qui fait que, oh Seigneur, c'est pas une prière plaintive, c'est pas une prière de supplication. On a parfois besoin de supplier, mais si on arrête dans la supplication, on n'entre pas dans l'autorité. Il nous faut une dimension d'autorité parce que nous avons reçu l'apostolat qui nous fait confronter les ténèbres, qui prend position, qui célèbre l'autorité, le règne de Dieu et qui confronte les ténèbres. Et qui nous ramène à notre mission. Notre mission, c'est de continuer d'annoncer l'Évangile sans que, en laissant la puissance de Dieu être libérée. Et quand l'Église se lève dans une prière commune, vous voyez, tous d'un commun accord, ils se sont mis à prier. Je me sens tellement en famille que je peux être désagréable. Pardonnez-moi d'avance. Mais des fois, nos prières ressemblent à des plaintes et des supplications qui finissent par nous tirer vers l'avenir, par nous tirer vers le bas. On a le droit de pencher nos cœurs. On a le droit de crier à Dieu. Mais à un moment donné, il faut que l'autorité, il faut que la conscience du mandat apostolique qu'on a reçu nous soit donnée à travers nos ministères et que l'Église se lève d'un commun accord pour que ce ne soit plus des prières dans la cacophonie où chacun prie dans son sens, mais pour qu'il y ait une seule et même déclaration. Seigneur, étends ta main. Et quand cette prière est proclamée ensemble, donc comme un accord, parce que le Saint-Esprit rassemble les cœurs, et ça c'est l'autorité apostolique, c'est de rassembler les cœurs, fédérer, de rassembler pour faire front face à l'ennemi, alors l'ennemi s'en va. Vous savez que l'ennemi ne supporte pas l'unité, vous savez ça ? Il ne supporte pas l'unité. Nos cris, nos déclarations, nos vociférations, bon, ça ne gêne pas. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'aime bien aussi quand ça explose et tout. J'ai aucun problème avec ça. Mais en soi, ce n'est pas ça qui fait fuir l'ennemi. Hein. Ce qui fait fuir l'ennemi, c'est quand les ministères rassemblent l'Église en un seul cœur. D'un commun accord, ils élevèrent la voix vers le Seigneur. Ça en dit long. D'un commun accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de division. Parce que la grâce, justement, ça anéantit les divisions. Ça anéantit la compétition, la rivalité. Je n'ai plus besoin d'exister face à mon frère ou à ma sœur. On est ensemble acceptés par le Père. Le même amour, la même considération, la même valeur, la même dignité, ça nous rassemble. Et dans la présence de Dieu, on devient un. Et là, l'ennemi s'en va. L'ennemi ne supporte pas l'unité. La vraie autorité spirituelle, elle est dans l'unité, dans l'amour fraternel et dans la proclamation de la Seigneurie et de la gloire de Dieu. Nous avons reçu l'apostolat. Que Dieu réveille en nous l'apostolat, chez les ministères individuels, parce qu'il nous faut des apôtres individuels, mais sur l'aspect collectif de nos églises, notre dimension apostolique pour amener notre nation à l'obéissance de la foi. Peut-être sur ce point, je dirai encore un mot. On ne se prétend pas apôtre, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une fonction. J'étais il y a quelques jours dans une église, quelqu'un où je n'étais pas allé non plus depuis 20 ans, pour toutes sortes de raisons, parce que d'autres visitent les églises, il n'y a pas que moi, donc je ne suis pas partout au même rythme. Et la personne, dans son innocence, me dit, alors qu'elle me transportait de l'aéroport jusqu'au lieu de notre hébergement, « Bon, alors, moi je connais la dimension prophétique, mais je ne connais rien de l'apostolat. Vous avez donc un ministère apostolique. Je dis, est-ce que vous avez vraiment le manteau apostolique ?» Et là, je n'ai pas fait une réponse qui lui convenait. J'ai dit, vous savez, moi, je n'ai pas à prétendre que j'ai un manteau apostolique. On ne se prétend ni prophète, ni apôtre, ni quoi que ce soit. Je suis reconnu par ceux que je sers comme ayant une autorité apostolique. Mais je ne m'en empare pas, je ne la revendique pas et je ne l'affiche pas comme un titre. Ça l'a un peu déstabilisé. Oui, mais quand même, si vous êtes reconnu, donc c'est que vous êtes... Je dis, oui, mais c'est la reconnaissance qui prime. C'est la reconnaissance qui prime, ce n'est pas l'affirmation de qui on est qui fait que. Voilà, c'est important, ça donne, et c'est ça la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de prétendre avoir tel titre. Le titre, je suis venu pas en tant que président de RNC ce matin, je suis venu en tant que frère. Après que mon mandat de président et moi, le fait que je sois reconnu comme le responsable apostolique de RNC soit manifesté, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas la position depuis laquelle je vous parle. Je vous parle en tant que frère avec ce que Dieu m'a donné. On ne se prétend pas, on ne se reconnaît pas, on ne se promeut pas, on ne s'auto-proclame pas. Simplement, on est reconnu. Mais en même temps, il faut dire ensemble que nous avons reçu l'apostolat. Amen. Et je prie pour que votre autorité spirituelle ici apostolique grandisse encore plus. Avec la culture de la grâce pour notre finalité, et je termine puisque je n'ai plus qu'une minute, pour susciter, j'aime cette expression, pour amener, pour susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Et ça nous positionne toujours en tant que témoin, en tant que serviteur. Un des procès qu'on nous fait, qu'on me fait, parfois sur les réseaux sociaux, oui, tu veux amener le royaume de Dieu par la force, tu veux prendre le pouvoir sur le plan politique, économique. De quoi on parle ? Et vous savez, les gens qui disent ça, ils le croient. Hein. Ils croient vraiment que j'enseigne ça, qu'on enseigne ça dans RNC. Et ils nous font des procès incroyables. Je dis, attendez, mais sur quelle planète est-ce qu'on vit là ? Qui est-ce qui a jamais dit ça dans notre réseau ? Non, parce que nous avons reçu la grâce, que c'est notre fondement, notre culture, notre message. Parce que nous sommes conscients de l'apostolat. Nous nous positionnons non pas comme ceux qui imposent, qui obligent, mais comme ceux qui suscitent, comme ceux qui témoignent pour que le Saint-Esprit, lui, crée la conviction et établisse le royaume du Seigneur. Et nous disons et nous redisons chaque fois que nécessaire que nous n'amènerons pas le royaume de Dieu, de notre vivant, ni les uns ni les autres, mais que nous y collaborons, nous y contribuons et que nous en verrons de toujours plus grandes manifestations. Jusqu'au moment où Jésus reviendra pour établir son royaume éternel. C'est lui qui le fera. Je veux le redire, ça a l'air évident pour nous, ça n'est pas pour certains qui nous entourent, mais c'est parfois utile de le proclamer publiquement. Susciter l'obéissance de la foi dans les nations. Et ce sera mon dernier point pour la minute dépassée. Dans les nations. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit dans lequel on vit, en dehors de l'Église, en dehors de la communauté, dans lequel on est engagé les uns et les autres. Pas un seul domaine, pas un seul endroit, professionnellement, associativement, relationnellement, y a pas, géographiquement, il n'y a pas un seul endroit où le royaume ne peut pas venir. Nous sommes tous agents du royaume de Dieu. Quel que soit, parce que l'apostolat, il est aussi communautaire. Quel que soit le ministère, l'appel, la vocation qu'on peut avoir individuellement, on a tous, on participe tous. Et quand une église se met en mouvement et que chacun prend sa part dans la manifestation du royaume de Dieu, alors, eh bien, l'Église devient une menace pour l'adversaire, pour le royaume des ténèbres, et elle amène la lumière partout où elle est. Je vais terminer, vraiment, en encourageant chacun à voir l'endroit où il est, où il sert, où il travaille, où il vit, comme étant le lieu dans lequel Dieu veut manifester sa gloire. Parce qu'un jour, ce lieu sur lequel tu es sera rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme l'eau couvre le fond des mers. La gloire que l'on attend, elle est... où est-ce qu'elle va se manifester? Là où nous sommes, sur une terre qui va être transformée. Parce que nous le verrons, sa gloire va être manifestée. Vous savez ce qui va se passer? C'est que quand il sera manifesté, nous serons aussi manifestés. Je suis passionné ces temps derniers par ce verset qui nous dit que nous, le Seigneur va être glorifié dans ses saints, dans ceux qu'il a appelés. Quand sa gloire va être manifestée, sa gloire qui est en nous va aussi être manifestée pour ceux qui seront restés pour son avènement. Et ceux qui seront morts ressusciteront, c'est pareil. Il sera glorifié dans nous tous. Et sa gloire sur la terre renouvelée, purifiée, qui passera par le feu, tout ce que vous voulez. Mais cette terre va être glorifiée, transformée pour être le lieu où la gloire de Dieu va habiter. Renouvellement, nous n'allons pas, parce que c'est ça notre message, c'est un autre message, mais je vais le rappeler quand même, nous n'allons pas vers la destruction de toute chose, nous allons vers le renouvellement de toute chose. Pourquoi nous sommes dans la foi et dans l'espérance? Parce que nos vies et la terre sur laquelle nous sommes est appelée à être renouvelée par la présence de Dieu. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre descend du ciel. Et à ce moment-là, Dieu habitera au milieu d'eux. Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances, plus de blessures, plus de morts, plus de cris, plus de désaccords, plus de zizanie, plus de division, plus de souffrances, plus de blessures. Dieu sera tout en tous. C'est ce royaume qui vient, qui est déjà au milieu de nous, qui est déjà une réalité par l'Esprit de Dieu, que nous voulons chérir, construire, et qui un jour se manifestera dans toutes les nations. Amen. Nous avons reçu la grâce, l'apostolat, pour susciter, pour son nom, l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Alors, on ne va pas tous partir dans les nations, mais le village, la rue, la région dans laquelle on est, ça fait partie des nations. Alors on englobe tout dans les nations, d'accord? Est-ce qu'on peut se lever, peut-être le dire ensemble, ça? Le proclamer devant Dieu. Alors si vous n'êtes pas convaincu, ne vous forcez pas. Ce n'est pas de la manipulation, je ne suis pas en train de faire du bourrage de crâne. Je veux vraiment respecter. Mais quand même, je voudrais que vraiment on soit attentif à la parole de Dieu. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. C'est un peu long, hein? Et si vous êtes comme moi, la mémoire, enfin, en tout cas pour ceux qui ont mon âge, mais bon, c'est la parole de Dieu, donc elle est vivante, donc ça doit être. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Amen. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. C'était trop beau, on va le dire encore une dernière fois. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Amen. 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 Seigneur, nous recevons de toi. Nous ne Rien ne nous appartient de tout cela, mais nous le recevons de toi parce que tout est de toi. Tout est par toi et tout est pour toi. Et humblement, nous nous saisissons de ce que tu nous donnes pour recevoir et pour vivre. Que cette Église continue de progresser dans son appel, dans son rayonnement dans cette région et au-delà, jusque-là, dans les limites de ce que toi, tu as prévu au nom de Jésus. Que le chemin soit frayé. On a parlé de chemin ce matin et je prie que le chemin soit frayé. Que la route soit ouverte. Seigneur, tu fermes les portes qui doivent être fermées, tu ouvres celles que toi tu veux et que personne d'autre ne pourra fermer au nom de Jésus dans tous les domaines. Et tu renouvelles l'autorité, la foi, la joie de ta présence et de te servir pour ton peuple racheté, pour ton peuple bien-aimé. Tu fortifies chacun, tu consoles ceux qui ont besoin, tu relèves, tu affermis ceux qui sont fragilisés. Seigneur, que ta grâce passe, qu'elle coule, qu'elle ranime, qu'elle restaure, qu'elle réjouisse, qu'elle rassasie tous ceux qui ont besoin de toi, nous tous qui avons besoin de toi, et qu'elle nous envoie dans ce mandat apostolique pour confronter les ténèbres et amener ta royauté, ta seigneurie partout où tu nous envoies pour la gloire de ton nom et pour la joie de ton peuple et le salut de notre génération. Au nom de Jésus-Christ.